L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, ce matin, je vais vous inviter à aller avec moi dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et on va avoir un enseignement aujourd'hui qui s'intitule « Votre problème, sa provision. » Votre problème, sa provision. Amen. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu veux parler à tes enfants aujourd'hui. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui s'est déplacé aujourd'hui, disant « Je veux recevoir de mon Dieu aujourd'hui. Je veux recevoir une portion aujourd'hui pour ma semaine. » Seigneur, viens rencontrer chaque frère, chaque sœur, chaque personne dans cette place qui dit « Je veux plus de Jésus. » Seigneur, nous sommes là, nous sommes attentifs. Seigneur Dieu, nous avons soif et nous te disons « Viens parler à ton Église ce matin. » Merci Seigneur Dieu pour mes amis sur Internet aujourd'hui qui sont là et qui disent « Seigneur, j'ai soif, je veux plus de toi Seigneur, viens les rencontrer. » Merci Seigneur Dieu parce que ton désir est pour nous. Ton désir est pour nous Seigneur. Merci pour le privilège qu'on a de venir devant ton trône maintenant et recevoir de toi. Merci Seigneur Dieu de remplir ma bouche avec les paroles qui sortent de ton cœur pour mes frères et mes sœurs. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans Jacques chapitre 1. Je vais vous lire ici sans commentaire. Et par la suite, on va s'arrêter pendant quelques instants. On va regarder chaque mot, mais pas nécessairement chaque mot, mais plusieurs mots pour nous aider à comprendre le sens véritable de Jacques chapitre 1. Commençons au premier verset. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Déjà là, on voit ici, c'est un texte inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, mais écrit par Jacques. Qui est ce Jacques? Jacques, c'est le demi-frère du Seigneur Jésus. On dit demi-frère parce que nous connaissons le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Jacques avait comme mère Marie. Son père était Joseph. Mais Jésus, son père, c'est le Père éternel. Amen. Donc, c'est le demi-frère. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Juste ici, saviez-vous que Jacques, le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, ici dit quelque chose de remarquable. Il dit « serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». En lisant ça, on ne réalise pas nécessairement, mais Jacques, cet homme, a reçu une touche de Dieu. Autrefois, lorsqu'il grandissait avec son frère Jésus, il ne croyait pas que Jésus était le sauveur du monde. Mais peut-être, imaginez, si vous étiez Jacques et que votre frère était Dieu. Imaginez la relation à la maison. Déjà, des fois, dans votre famille, vous dites, on dirait qu'on traite toujours mon frère ou ma sœur d'une certaine façon. Mais imaginez si dans votre famille, Dieu était votre frère. Et là, votre frère ne fait jamais d'erreur. Votre frère ne fait jamais de péché. Votre frère est merveilleux à chaque moment de sa vie. Mais Jacques a vécu comme ça. Il a vécu cette expérience. Jacques a vécu cette expérience, grandissant avec le Seigneur Jésus. Et Jacques ne croyait pas que Jésus était le Sauveur, mais c'est juste après la croix qu'il a réalisé et qu'il a cru que Jésus était le Sauveur. Si Jacques, serviteur de Dieu, est Dieu, Seigneur Jésus, savez-vous que le mot « Dieu », quand on va dans le grec, c'est le mot « kai » et qui veut dire « en effet est ». Vous pouvez faire une recherche, mais il dit ici, serviteur de Dieu, là, il est en train de faire un décret, il est en train de déclarer quelque chose de formidable. Jacques, serviteur de Dieu, qui est en effet Jésus-Christ. Il est en train d'affirmer ici, « Je crois que Jésus est Dieu ». Là, il dit « Seigneur ». Et le Seigneur ici, c'est un Seigneur qu'on réserve pour le Dieu. Donc, il est en train de le dire deux fois. « Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » On comprend ici que dans l'Église primitive, ils ont eu des difficultés. Ils ont été dispersés partout dans l'Empire romain. Et là, les chrétiens vivaient toutes sortes d'épreuves. Imaginez, vous avez entendu la bonne nouvelle du salut par grâce, et là, vous vous imaginez que vous allez vivre la bénédiction, et c'est certainement le cœur de Dieu, mais là, il y avait de la persécution. Il y avait de la persécution, et les gens étaient séparés, le frère, la sœur, les parents, il y avait les gens qui étaient dispersés partout. Et puis là, les gens vivaient des épreuves. Et là, des fois, quand on vit des épreuves, on peut se remettre en question. Savez-vous ça? Des fois, on a des problèmes et on se remet en question et on se dit, ben, peut-être que Dieu voulait ça. Et des fois, on se dit, ben, je sais que Dieu est bon, donc peut-être que Dieu ne veut pas vraiment que je vive telle ou telle chose, mais peut-être Dieu a permis ou il permet d'une certaine façon. Et là, on voit Jacques qui est en train de parler à des gens qui se remettaient justement en question, parce qu'ils vivaient toutes sortes de persécutions, des difficultés, des épreuves. En fait, ce texte-là, quand on parle d'épreuves dans ce texte, ça nous parle de quelque chose qui vient nous écraser dans le but de nous détruire. Ce n'est pas juste des tentations. Des fois, on lit ce texte-là, on va continuer à lire, mais on pense ici, ça nous parle d'une tentation au péché. Mais le mot « tentation » ici dans ce texte-là, ou « tenter », ça nous parle ici de quelque chose d'écrasant qui mène ou qui désire notre destruction. Au verset 13 de ce chapitre, Jacques chapitre 1, verset 13, si Jacques, il parle déjà à ses frères et ses sœurs qui se posent des questions, qui se remettent en question, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ou Rick Renner, spécialiste, un expert en grec, a traduit ça comme ceci, « to devastate, crush, destroy ». En autre mot, écraser ou détruire. Rick Renner, c'est un homme de Dieu vraiment remarquable qui connaît le grec, c'est un spécialiste, un expert. Et puis, dans ses études qu'on peut faire avec lui, qu'est-ce qui est merveilleux, on voit ici vraiment le mot qui ressort « tenter » comme étant quelque chose d'au-delà de ce qu'on a traduit ici. Mais il dit ici que personne, lorsqu'il est tenté ou en train de se faire écraser ou s'imaginer qu'on est en train de se faire détruire, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est quelque chose de merveilleux. Mais je vais continuer à mon texte. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus, ceux qui ont été éparpillés partout, qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est merveilleux aujourd'hui ce qu'on va voir. On va décortiquer ces mots-là et on va redéfinir des mots qui ont été parfois mal traduits. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ce qu'on va voir pendant quelques instants. On va juste relire ce texte-là. Parce que le Seigneur réalise que certains d'entre vous, ou peut-être plusieurs d'entre vous, vous vous retrouvez dans des problèmes dans la vie, des épreuves. Combien d'entre vous pouvez dire, en disant « Amen », que vous avez déjà eu un problème? Amen. On a déjà eu des problèmes dans la vie, et Dieu est conscient de ça, et Dieu veut vous aider. Savez-vous ça? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu est pour vous, enfants de Dieu. Votre problème n'est jamais Dieu. Comprenez ceci, votre problème n'est jamais Dieu. Il y a deux réflexes qu'on peut avoir dans le monde chrétien. Et aujourd'hui, mon cœur, ce n'est pas de vous reprendre, mais si ça l'arrive, bien, gloire à Dieu. Mais il y a deux réflexes. Quand il y a un problème, on peut soit identifier la source du problème comme étant Satan ou étant Dieu. Et il y a deux réflexes. C'est soit qu'on se choque contre Dieu parce qu'on pense qu'il est celui qui l'a fait, qui a causé mon problème, que Dieu en fait est mon problème ou qui permet mon problème, ou on réalise que Dieu est pour nous. C'est diable qui est contre nous. Il y a toujours deux réflexes. Et quand ça va mal, rappelez-vous de ces paroles que je vous prononce aujourd'hui. Quand les choses ne vont pas bien dans votre cœur, quand les choses sont difficiles dans votre couple, quand les choses sont difficiles dans votre portefeuille, rappelez-vous de ceci. Tournez-vous vers celui qui est votre source, celui qui est votre espoir, celui qui veut vous aider. Ne vous détournez pas de celui qui est pour vous. Ne vous détournez pas de celui qui veut vous aider. Mais détournez-vous de celui qui veut vous nuire, le voleur qui vient vous voler, vous égorger et vous détruire. Le réflexe de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu dans cette maison, quand ça va mal, détournez-vous du diable. Choquez-vous, frustrez-vous avec le diable et non avec Dieu. Si vous avez eu l'habitude des fois, peut-être c'est vous, vous avez vécu ça, quand ça va mal, vous êtes frustré de Dieu, et là vous dites, là j'irai plus à l'église, Dieu m'a laissé tomber, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Comprenez ceci, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison, enfant de Dieu. Dieu a toujours raison, Dieu n'est jamais coupable. Amen. C'est que si Dieu a toujours raison, et si Dieu veut toujours mon bien, je dois comprendre que Dieu n'est pas la source de mon problème. Comprenez ceci. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Ça va vous aider pour toute votre vie ce matin. Si vous prenez ce message et vous comprenez le sens de ce texte, ça va vous aider. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas contre vous. Et vous allez savoir, et malgré le problème, il y a une provision. Il y a une provision en Dieu. Amen. Jacques, serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, là, il s'adresse aux gens qui se remettent en question. Coudonc, comment ça, ça nous arrive? Comment ça, on est obligé d'être séparés de nos parents? On est éloignés comme ça? On était dispersés? Et là, il s'adresse aux frères qui sont dans la souffrance, comprenez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça? Admettons, vous reculez dans le temps, vous êtes dans l'église primitive. Là, vous êtes séparés de votre épouse, de vos enfants, vous vous retrouvez dans un coin de l'Empire romain, et là, vous êtes là, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était une bonne nouvelle, servir Jésus, et là, je me retrouve ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis séparé de ma famille. » Mes frères, regardez. Le mot regarder, c'est le mot que j'ai du mal à prononcer, mais c'est un mot en grec que je ne vous dirai même pas, vous pourrez le chercher, mais qui veut dire estimer. Estimer, en anglais, c'est traduit counted all joy. C'est un mot dans le langage des comptables. Il est en train de dire, faites un calcul ici. Faites un calcul de la conclusion finale. Comprenez ceci. Faites un calcul en voyant la conclusion finale de l'épreuve. Quand vous avez la perspective éternelle, vous êtes capable de vivre dans la joie et dans la paix. Des fois, il y a des choses difficiles dans un moment, mais vous dites, ben, dans 1 million d'années, ça ne sera pas si terrible. Dans 1 million d'années, je vais dire, ben, coudonc, j'ai eu un dégât d'eau dans mon sous-sol. C'était la fin du monde pour moi cette journée-là, mais dans 2 millions d'années, ça ne sera pas si terrible. Hein? Dans 2 millions d'années, ben oui, j'ai eu de l'eau dans la cave. Puis ça. Hein? Mais là, ça dit, regardez, faites un calcul comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves. Et le mot épreuve ici, ça veut dire adversité. Adversité. Pourquoi? Auquel vous pouvez être exposé. Et là, le mot exposé ici, en fait, quand on lit le texte, c'est-à-dire auquel vous pouvez, c'est quand vous êtes exposé. Le vrai mot, là, c'est quand vous êtes exposé aux épreuves. Parce que c'est pas juste peut-être vous pouvez être exposé, mais en fait, c'est tout le monde va y passer. C'est quand vous serez exposé aux épreuves. Malheureusement, j'ai la bonne nouvelle à vous dire, ou la mauvaise nouvelle, vous aurez une épreuve dans votre vie. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais eu d'épreuve, je sais, là. Mais aujourd'hui, je vous annonce, si vous n'avez pas encore eu d'épreuve, vous allez en avoir une fois, un jour. auxquels vous pouvez être exposés. Là, ça dit quand vous serez exposés. Là, le mot exposé, c'est péripito.
Wow!
Hallelujah! Mais ce mot-là veut dire comme tomber dans les épreuves. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire, qu'on souhaite. C'est quelque chose, on tombe dans une épreuve. OK? On tombe dans une épreuve où on est environné. On tombe dans quelque chose et on est environné par quelque chose de difficile. Mais là, remarquez bien le mot « sachant » au verset 3. « Sachant ». Comment ça on peut considérer ou faire le calcul final que cette chose-là va être pour mon bien? Verset 3, « sachant », c'est le mot « ginosko » qui veut dire « venir à la connaissance ». Vous arriverez à une connaissance. Et ici, on parle de quelque chose qui va venir nous illuminer dans notre vie. « Sachant que l'épreuve », en fait, le mot « l'épreuve » ici, c'est le mot « dokimion », la seule façon que je peux le prononcer, mais le mot veut dire « la preuve ». En fait, ça dit « sachant que ceci va prouver votre foi et qui produit de votre foi, produit la patience ». Ici, on a lu ce texte-là, puis on pensait « si je vis des épreuves, je vais devenir de plus en plus patient ». C'est une mauvaise traduction. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment plusieurs épreuves, une épreuve après l'autre, et puis sont toujours impatients. Donc, si les épreuves nous rendaient patients, ça serait comme on dirait, Seigneur, je veux de plus en plus d'épreuves. Hein? On dirait ça, Seigneur, je veux plus d'épreuves dans ma vie pour vraiment être patient. Mais c'est pas ça que ça nous dit. Le mot patience, c'est le mot hupomone, qui veut dire endurance. C'est le mot endurance. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. En fait, ici, l'épreuve, ici, c'est la preuve de votre foi va révéler votre endurance. C'est absolument merveilleux. Si vous me suivez jusqu'à présent, si vous êtes encore avec moi ce matin, j'essaie d'y aller lentement, vous laisser le temps de comprendre ici. Mais vous allez voir, c'est pas, je veux des épreuves pour devenir patient. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est que ici, qu'est-ce qui s'oppose à vous, qui vient contre vous pour vous amener une destruction dans votre vie, pour vous écraser, il dit ici, si on est endurant, si on a de l'endurance, ceci va prouver notre foi. Ceci va prouver notre foi. Mais il faut que la patience, ou il faut que votre endurance accomplisse parfaitement, ou amène à ses fins son œuvre, afin que vous soyez parfait. Afin que vous soyez amené à vos fins et accompli, complet. Là, le texte finit en disant « sans faillir en rien ». Savez-vous ce que ça veut dire « sans faillir » ? Ici, ça veut dire « sans laisser, sans quitter, sans abandonner ». Ce texte-là, on doit le comprendre comme ceci. Satan vous oppose, comme Satan s'est opposé aux frères et aux sœurs dans l'Église primitive. Et là, ces frères-là et ces sœurs avaient reçu une illumination de la part du Seigneur. Ils avaient reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais l'ennemi est venu contre eux pour s'attaquer à eux. Savez-vous, le moment que vous recevez quelque chose de Dieu, vous recevez une révélation de la part de Dieu, Satan va venir vous attaquer pour vous voler de cette révélation-là. Satan, là, qu'est-ce qu'il veut? Le moment que vous avez vraiment reçu quelque chose, vous avez reçu une révélation qui vient de Dieu, l'ennemi va venir contre vous pour vous faire abandonner. Ici, ça dit, vous devez endurer afin que votre foi soit accomplie, afin que votre foi puisse vraiment être révélée, que vous puissiez prouver votre foi sans rien faillir, sans quitter ou sans abandonner. L'ennemi de vos âmes, ce qu'il veut pour vous, il a un agenda. Satan a un agenda pour chacun d'entre vous. Dans son agenda, il veut envoyer quelque chose, peu importe le quelque chose, pour que vous puissiez abandonner votre foi. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Mais, là, au verset 5, Jacques dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, vous trouvez ça difficile, vous avez besoin de la pensée de Dieu, la sagesse, le mot « sophia », qui veut dire largeur et plénitude de l'intelligence, mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de manière très diverse. Donc, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de la pensée de Dieu, l'intelligence, qui la demande à Dieu. » Peut-être ces frères et ces sœurs-là qui étaient séparés, qui vivaient des choses difficiles, ces gens allaient voir leur pasteur. « Écoute, ça va mal, qu'est-ce que je fais? » Il vous manque la sagesse. Peut-être votre pasteur n'a pas la réponse, mais Dieu a la réponse. Dieu sait exactement comment régler le problème. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu? Qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Quand vous avez besoin de la sagesse de Dieu, vous avez besoin de savoir quoi faire. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'ai un problème. J'ai un problème devant moi. Qu'est-ce que je fais? Il y a la provision en Dieu ce matin. La provision est dans le Seigneur. Cette semaine, comme je priais pour ce message, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je partage? Le Seigneur m'a dit très simplement, il y a des problèmes, mais j'ai une provision, j'ai des promesses dans ma parole. Mais les frères et les sœurs ont une part à jouer. Avez-vous remarqué quelque chose? Il y a des pains là-dedans. Il y a des problèmes, mais il y a une provision. Il y a des promesses dans la parole de Dieu, mais on a notre part à jouer. C'est venu ce message déposé à mon cœur pour vous. Je priais, puis là j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que plusieurs d'entre vous, vous entendez parler. Vous avez entendu parler de l'héritage des enfants de Dieu. Et vous avez reçu des révélations. Vous avez reçu des choses, vous avez eu pendant un instant la vision de l'héritage. Vous l'avez vu avec vos yeux, de votre esprit, vous avez vu l'héritage devant vous et vous avez même pu commencer à rêver à votre avenir. Vous avez commencé à voir, le Seigneur va faire des grandes choses. Si vous n'avez pas encore entendu le message « Jésus l'héritier », je vous encourage fortement à aller l'écouter. Vous avez besoin de savoir ce qui est à vous et demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler ces choses-là parce que vous avez un héritage en Christ. Mais là, le moment où vous avez l'héritage, l'ennemi, ce qu'il veut, il veut vous faire abandonner votre héritage. Satan ne peut pas vous le voler. Comprenez ceci. Vous avez un héritage en Christ, mais Satan n'a pas de droit légal sur l'héritage. Il appartient à Jésus-Christ et vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. Vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ dans votre héritage. La seule chose que Satan peut faire, c'est vous séduire et vous distraire à un tel point que vous allez quitter ou abandonner votre héritage et vous allez vivre sous la malédiction. C'est la seule chose. Satan n'a pas d'autorité sur vous, saviez-vous ça? Satan n'a pas d'autorité dans vos vies. L'autorité qu'il a, c'est lorsque nous lui cédons notre autorité. Lorsque nous croyons son rapport au lieu du rapport de Dieu. Dieu peut dire plein de choses. Le Seigneur, dans sa parole, il y a une provision. Si vous prenez le temps, à chaque jour de vos vies, et vous dévorez cette parole, vous dites, ceci m'appartient. La parole de Dieu, c'est ma parole. Elle m'appartient. Je suis co-héritier avec Christ. Ceci, ça m'appartient. Vous trouvez les bijoux du Seigneur, les trésors dans sa parole. Et vous dites, waouh, gloire à Dieu, c'est à moi. Et là, si l'ennemi vient et vous compte des mensonges, il vous dit, non, c'est pas pour toi. Toi, t'as pas le droit. Mais si vous avez été pleinement dans la parole de Dieu et cette parole est déposée dans vos cœurs, et là, vous savez que c'est à vous, là, même si l'ennemi vient, vous pourrez le chasser au nom de Jésus. Vous pourrez lui dire, il est écrit. Avez-vous remarqué que quand le Seigneur Jésus était dans le désert et puis l'ennemi venait le tenter, Jésus avait toujours la parole dans sa bouche. Il est écrit. À chaque fois, il disait, il est écrit. Mais comment savoir ce qu'il est écrit si nous ne lisons pas la Bible? Jésus marchait dans la victoire. Il n'a jamais chuté dans le péché. Mais il savait comment opérer les lois de Dieu. Il est écrit. Il y a une provision pour vous ce matin dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ou ce livre d'instruction ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le mot ici qu'on retrouve, médite-le, c'est le mot haga, qui veut dire prononcer ou parler. Et dans un autre texte, ça dit murmurer des paroles entre ses dents. Vous méditez, vous pensez, oui, mais vous prononcez ces paroles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, parle, prononce ces paroles, jour et nuit pour agir. Pourquoi? Vous avez une provision pour quelque chose, parce que vous avez votre part à jouer. L'héritage est à vous. Dieu veut faire des grandes choses dans vos vies. Le Seigneur veut vous libérer de toutes les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur veut répandre sur vous sa bénédiction avec en abondance. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, je vous le dis. Mais il dit, médite le jour et nuit pour, dites pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le mot entreprise ici nous dit le cours de la vie. C'est alors que tu auras du succès dans ta vie. C'est alors que tu réussiras. Dieu veut votre réussite dans votre vie. Il veut que vous puissiez entrer dans votre destinée. Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre vous. Et Dieu veut que vous puissiez vraiment être dans ce plan-là parfait. Mais comment y arriver? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si vous méditez la parole de Dieu jour et nuit, vous lisez la parole de Dieu. Admettons que vous avez un problème. Je vais vous donner une situation fictive. Admettons que vous aviez un problème. Et là, vous dites, Seigneur, j'ai problème X, Y, Z. Admettons, j'ai trois problèmes. Et là, je vais aller me chercher trois promesses dans la parole de Dieu pour combattre au niveau de la foi. Admettons, vous avez un problème dans vos finances, un problème dans votre corps, un problème dans votre famille. Allez chercher les promesses de Dieu. Des fois, les gens disent, « Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi pour tel problème. » Je peux dire, oui, je vais prier pour toi. Mais toi, en ce moment, est-ce que tu es en train de livrer le bon combat de la foi? Et si on me dit oui, mais quelle est la promesse sur laquelle tu t'appuies en ce moment? Quelle est la promesse dans la parole de Dieu? Si, admettons, c'est au niveau de votre santé, peut-être c'est le verset « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri ». Peut-être c'est votre verset. Mais vous avez besoin d'appuyer votre foi. Votre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas gagner la victoire qui est en fait déjà acquis, si vous passez à côté des promesses, si vous passez à côté de votre héritage. Ça vous appartient, mais il faut le recevoir par la foi. Ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Certains d'entre vous vous dites, « Mais pasteur, moi, je ne sais pas comment y arriver, vraiment faire ça, ce verset. Comment est-ce qu'on fait vraiment? J'ai une vie, je travaille. » Savez-vous comment vous allez arriver à le faire? Vous allez prendre une promesse de Dieu. Vous pouvez prendre une carte, un carton. Admettons que vous travaillez sous votre pause. Vous allez à la salle de bain des fois. Sortez votre carte et rappelez-vous la promesse de Dieu. Et pendant la journée, rappelez-vous de cette parole. Prenez le temps. Et savez-vous une autre chose? Demandez au Seigneur pour une soif surnaturelle. Demandez-lui. Si vous dites, j'ai de la misère à lire ma Bible, je l'ai déjà dit, lisez une Bible que vous comprenez. Mais une fois que vous avez une Bible que vous comprenez, là, vous avez besoin de la discipline. Si vous dites, oui, mais je n'ai pas le temps, je peux rien dire à ce niveau-là parce que nous avons tous 24 heures sur 24. Puis même si on est super occupé, même si vous dites, j'ai pas le temps, en fait, c'est des raisons qu'on se donne, mais je veux juste vous dire, ne croyez plus ce mensonge-là. Ne croyez plus ce mensonge-là, puis je ne veux pas vous affecter, vous faire de la peine. Je veux vraiment votre bien. Le moment que vous prenez la parole de Dieu et vous dites, Seigneur, je veux dévorer cette parole. Seigneur, donne-moi la soif surnaturelle pour ta parole. Et là, vous lisez la parole de Dieu. Et cette parole, vous savez, le plus qu'on lit la parole, le plus qu'on a soif de la lire. Je vous le dis, là. Le moment que vous commencez à lire la parole, même si au début vous dites, ben, c'est un petit peu difficile, donnez-vous le temps. Lisez plus la parole. Lisez plus. Et à force de connaître, le Seigneur va susciter des questions, un intérêt pour telle chose. Vous allez commencer à dévorer la parole et la parole de Dieu en vous va transformer votre vie. Elle va transformer votre vie vraiment. Mais pour ça, il faut changer. Il faut changer puis il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront rajoutées par-dessus. Des fois, on cherche les autres choses, mais si on cherche Dieu, les autres choses vont suivre. On va aller ensemble maintenant dans le psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1 et versets 1 à 3. Je veux vraiment votre bien, frères et sœurs. Mon cœur aujourd'hui, c'est de vous aider. Il y a des problèmes, oui. Il y a des problèmes sur la terre. On vit sur la terre, même si on n'est pas de ce monde. Il y a des vrais de vrais problèmes. Mais il y a des vrais de vraies provisions. il y a une provision dans sa parole. Si c'est tout ce que vous vous rappelez aujourd'hui, il y a une provision pour moi, il y a une promesse pour moi dans sa parole, la puissance de Dieu est dans la parole, tout est là. Si je peux juste me rappeler de ça, aujourd'hui je suis allé à l'église et j'ai reçu le message, il y a une provision pour moi dans sa parole. Il y a quelque chose là-dedans pour moi, la parole de Dieu, une provision pour ma vie. Dieu veut mon succès. Puis ici, le parcours de ma vie doit être béni. Dieu veut que je sois heureux dans ma vie chrétienne. Dieu veut que vous soyez heureux, frères et sœurs. Amen. Si vous croyez ça, que Dieu veut que vous soyez heureux, lisez ce texte-là, suivez avec moi. Ça dit ici, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Trouve son désir, sa joie dans l'instruction de l'Éternel. Voyez-vous ici, quelqu'un qui aime ça, la Bible. Si vous dites, j'aime pas ça lire la Bible, priez que Dieu vous donne ce désir. Priez vraiment, Seigneur, j'ai besoin d'avoir ce désir. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi une soif. Donne-moi une soif, Seigneur Dieu. Ça dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite. Le mot médite, encore une fois, c'est le mot haga, qui veut dire prononcer, parler. Qui la médite jour et nuit. Ça veut dire que c'est une occupation de vie. Ça fait partie de ma vie. Méditer la parole. Ensuite, ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Imaginez pendant quelques instants un arbre planté près d'un courant d'eau. Pas dans le désert, là. Celui qui vient s'abreuver aux fontaines de la vie, de la parole de Dieu, n'est pas en train de dessécher. Mais ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Quand ce sera votre temps, quand ce sera le temps de Dieu, vous allez porter votre fruit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La condition, c'est encore la même affaire. Il médite la parole jour et nuit. C'est une méditation, c'est là, vous dites, oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'on parle la parole jour et nuit. Saviez-vous que Dieu a créé l'univers par sa parole? Il a créé l'univers par sa parole. Et d'une certaine façon, vous créez votre vie par vos paroles. Si vous dites, aujourd'hui, j'aime pas ma vie, vous pouvez arrêter pendant quelques instants et voir qu'est-ce qui sort de votre bouche jusqu'à présent. Quels sont les décrets de votre vie? Quels ont été les décrets de votre vie jusqu'à aujourd'hui? On doit s'arrêter et dire, qu'est-ce que j'ai dit toute ma vie pour être arrivé ici aujourd'hui? Si vous dites, OK, moi, je réalise que j'ai dit plein de choses qui sont fausses. Je n'ai pas prononcé la parole de Dieu sur ma propre vie. Aujourd'hui, je veux le faire. Je veux commencer à parler comme Dieu. Vous savez, on l'a dit combien de fois à l'Église? On a parlé souvent ici de la confession de la parole de Dieu. On le dit plein de fois. Ce matin, c'est un matin où Dieu veut que je puisse juste mettre l'accent là-dessus. Parce qu'autant de fois que vous le savez dans votre tête, je le sais à 100%, je suis 100% convaincu que plein de personnes n'ont pas reçu la révélation. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et j'entends les gens souvent parler de leur réalité au lieu de parler de la vérité. C'est une réalité. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est juste vrai. Mais savez-vous, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous aider. Parce que si vous commencez à confesser la parole de Dieu, vraiment, jour et nuit, vous êtes dans la parole, vous commencez à vraiment vous bénir par vos paroles, vous bénissez votre épouse, vous bénissez votre mari, vous bénissez vos enfants avec vos paroles, vous bénissez votre maison, vous bénissez votre auto, vous bénissez votre tapis dans le salon. Vous bénissez tout ce que vous avez. Et quand quelqu'un vous pose la question, « Bonjour, comment ça va aujourd'hui? » Je suis béni et hautement favorisé. Devinez qu'est-ce qui se passe. Vous devenez béni et hautement favorisé. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais parce qu'en Christ, nous sommes dans le favori. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, vous êtes dans la vérité totale. Là, votre vie se met en accord avec ce que vous prononcez. Là, je veux vous inviter, on va aller ensemble dans Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20. Je veux vraiment semer ces paroles dans vos cœurs, que le Seigneur puisse travailler dans vos cœurs, que ça puisse être, je ne sais pas comment dire, comme imprégné, que vous puissiez être imprégné de ces versets pour que vous puissiez vraiment y croire. Et si vous y croyez vraiment, vraiment pratiquer ce que la Bible dit, vous pouvez être des auditeurs oublieux. On peut entendre la parole. Frères et sœurs, on peut entendre la parole. On peut l'entendre et ne pas la pratiquer. Et la Bible nous dit, ça ne nous servira à rien. Ça ne sert à rien. Mais je veux que ça vous serve à quelque chose, frères et sœurs. Je veux que ça vous serve à quelque chose. Je veux que ça vous serve à votre bien. Proverbe 4, verset 20. Ce matin, on est en train de voir des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois, mais à matin, c'est le jour où on dit, je plonge dans cette parole. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif. Porte l'oreille. Sois attentionné à ce que Dieu dit. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde mes paroles dans le fond de votre esprit, que ça fasse partie de qui vous êtes. Garde-les, garde-les, garde-les dans le fond de votre cœur. Garde-les. Gardez la parole dans le fond de votre cœur. Car c'est la vie. Combien d'entre vous, vous voulez vivre la vie de Dieu, le zoé de Dieu? Car c'est la vie. Si vous déposez la parole dans vos cœurs, ça dit c'est la vie pour ceux qui la trouvent. J'ai trouvé la parole. Je l'ai trouvée. J'ai trouvé sa parole. Mais là, c'est à moi, ma part, c'est la déposer dans mon cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour mon corps. La parole de Dieu, c'est la santé pour mon corps. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Faites attention à ce que vous croyez, ce que vous prononcez, ce que vous déposez dans votre esprit. Satan, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez commencer à poser des questions comme « Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi si. Je me demande pourquoi ça. » Il y a des gens qui se posent des questions. « Je me demande pourquoi. Je me demande. » Saviez-vous que lorsqu'on est là et on dit « Je me demande pourquoi. » Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de relâcher notre foi. Est-ce que ça veut dire qu'on ne se pose jamais une question dans notre vie? Non, on ne se pose pas une question. On peut se poser des questions à l'occasion, mais notre style de vie doit être des gens. On doit avoir un style de vie où on est en train d'avancer dans notre vie chrétienne, puis on dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Je dis amen. Parce que quand on est là, je me demande pourquoi Dieu a dit ça. Le temps qu'on est là, puis je dis, je me demande pourquoi, là, c'est un temps où on n'est pas en train de croire et de recevoir et de le vivre. Savez-vous ça? Il y a plusieurs personnes qui lisent la Bible, mais qui ne vivent pas la Bible. Sont dans un piège, frères et sœurs. Littéralement, sont piégés. Ils connaissent la doctrine de tout le monde, ils connaissent la théologie de tout le monde, ils connaissent les points de vue. Lui dit ça, elle a dit ça, lui dit ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas. Ça ne change rien dans ta vie, ça ne change rien. Tu fais juste connaître des choses dans ta tête. C'est ce qui descend dans ton cœur. Qu'est-ce qui descend dans ton cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? C'est ce qui va vous faire vivre. La parole de Dieu dans vos cœurs vous donnera la vie de Dieu en vous. Vous allez vivre dans l'expérience. Vous allez vivre la vie de Dieu. Amen. Ésaïe 55, verset 11. Là, est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Avez-vous des yeux? Pouvez-vous regarder le texte? Il est écrit, Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Ah, ça revient souvent, ça. « Elle ne retourne point à moi sans effet. » Remarquez, il y a une promesse pour vous. Avez-vous remarqué ici? On vient de voir une promesse. On vient de voir une vérité de la parole de Dieu. « Elle ne retourne point à moi sans effet. » Sans avoir exécuté ma volonté. Mais imaginez si vous avez la volonté de Dieu dans votre bouche. Imaginez. Et accomplis mes desseins. Ah, ça continue. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dans la joie, dans la paix, avec la parole de Dieu, sachant cette promesse. cette vérité? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Romains 10, versets 8, 9 et 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. Dites « dans ma bouche » et « dans ton cœur ». Remarquez-vous un thème qui revient ce matin. Vous avez un problème, il y a une provision dans la parole. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On a une série au complet sur ce texte. Vous vous rappelez? On a une série sur ce texte. Mais le mot sauvé ici nous parle, tu seras délivré des œuvres de Satan. Mais on a pris ce texte-là juste pour nous parler du salut, comment être pardonné de nos péchés. Et une fois qu'on a été pardonné, là, on a cru le mensonge, bien maintenant, organise-toi tout seul. Mais c'est la même façon qu'on va vivre notre vie chrétienne. La même façon qu'on a été sauvé au tout début, c'est la même façon que vous allez vivre votre vie chrétienne. Je vais le relire. Si tu confesses de ta bouche, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, je déclare que Jésus est le Seigneur de la famille Sphinx à Bromont. Je le déclare, Jésus est Seigneur. Vous venez d'avoir un compte. Vous avez eu un ticket de la police. La police faisait son travail. C'est correct. C'est qu'on est en défaut. Puis là, vous dites, ben, c'était pas dans mon budget. Oh, c'est un problème. Mais Dieu m'a racheté de la malédiction. Donc, Dieu est capable de me sauver de cette situation-là. Qui était de ma faute. Des fois, on dit, ben, c'était de ma faute. Oui, mais heureusement, on a Dieu de notre côté. Dieu est capable de s'organiser avec ça. Je dis pas, aller avoir des tickets, là. C'est pas ça. Mais ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je crois en Jésus, et si tu crois dans ton cœur, dans ton esprit, là, vous y croyez, que Dieu l'a ressuscité des morts, oh, je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que je crois dans la puissance de Dieu. Je crois dans la puissance de Dieu. Ce Jésus qui est à mort, je crois que Dieu était capable de le ressusciter par une puissance surnaturelle. Donc, si je confesse ce Seigneur Jésus, si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça, c'est une foi qui va vous sauver. Vous allez être délivré. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur. Quand c'est profond, quand c'est pas dans la tête, on peut l'avoir dans la tête. On peut l'avoir dans la tête, puis ça ne change rien. On peut savoir, et vous êtes peut-être même capable de prêcher ce message à ma place et dire, je le sais, je peux même l'expliquer à quelqu'un. Mais quand ça descend dans le cœur, ça dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. J'ai été déclaré juste, je suis plus pécheur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je marche dans mon salut, je marche dans la délivrance. Comment? En confessant de la bouche. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous êtes dans un problème, vous êtes confus, comprenez que Dieu n'est pas votre problème. Dieu n'est pas la source de votre problème. Dieu n'est pas la source. Et Jacques, au tout début de la prédication, on vous a dit ça, il devait écrire aux croyants qui se remettaient en question, « Coudonc, cette bonne nouvelle-là, est-ce qu'elle marche? Regarde qu'est-ce qui m'arrive! » Et là, Jacques a dit, au verset 13, je crois, si je vais retourner là, vous pouvez aller avec moi dans Jacques 1, verset 13, il est obligé de le dire, « Que personne, lorsqu'il est tenté ou lorsqu'il est infligé, lorsqu'il vit des choses, le malheur, lorsque quelqu'un vit des choses difficiles, quand quelqu'un vit le malheur, il dit que personne, lorsqu'il vit le malheur, ne dise, c'est Dieu qui fait ça. Ne dites pas ça. Jacques est obligé de leur dire, écoutez, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas la source de vos problèmes. On va aller dans Ésaïe 54. Écoutez bien. Frères et sœurs, je termine dans quelques instants, mais on doit être affermi. On doit être affermi dans la vérité de la parole de Dieu. Mon rêve pour vous est le rêve de Dieu. peu importe le problème. J'aime ce que R.W. Sambach a dit, un évangéliste qui est décédé maintenant, qui est déménagé au ciel. Il disait, vous n'avez pas un problème, tout ce que vous avez besoin, c'est la foi en Dieu. J'aime ça. Parce qu'en réalité, peu importe le problème que vous avez aujourd'hui, tout est sujet au changement. Tout est sujet au changement, frères et sœurs. Tout est sujet au changement. Vous avez un problème devant vous, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que le problème qui est capable de vous aider. Et son nom est Jésus. Peu importe le problème, si vous prenez la parole de Dieu, vous la prenez, vous découvrez vraiment, là, et vous êtes sérieux. Je parle à des gens sérieux, là. Pas juste des gens qui viennent le dimanche matin, une fois par semaine, mais la semaine, vous livrez le bon combat de la foi avec la parole de Dieu dans votre bouche. Vous la déposez dans votre cœur, vous écoutez des messages, mais là, vous la travaillez dans votre cœur et vous la méditez. Vous la prononcez jour et nuit. Vous vous réveillez avec la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Vous dites, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible de vous réveiller en train de déclarer la parole de Dieu. C'est possible. Ici, Ésaïe 54, verset 14. Écoutez bien ceci. Tu seras affermi dans la justice. Tu seras affermi, stable, pas comme l'homme qui se fait flotter, comme qui flotte avec tout vent de doctrine, pas avec des gens qui sont balayés, qui flottent comme sur la mer par les inquiétudes, par les vents contraires, mais tu seras affermi dans la justice. Ensuite, il est écrit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Parce que la crainte, c'est l'opposé de la foi. La crainte vous vole votre héritage. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Comment? Avec la bouche. Tel est l'héritage. Oh, encore une fois, l'héritage. Dites héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut, la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Certains d'entre vous, vous n'avez pas compris verset 15. Je vais relire, 14 et 15. On a besoin de croire ce texte-là. On a besoin de plus jamais retourner en arrière, frères et sœurs. Quand il y a un problème, comprenez ceci, Dieu n'est jamais coupable et ne soyez jamais frustrés avec Dieu. Amen. Vous avez un problème, soyez frustrés contre le diable. Prenez votre autorité spirituelle, plongez dans la parole de Dieu. Quand vous avez un problème, c'est le moment où vous avez besoin d'être à l'église plus que jamais. Quand vous êtes dans un problème, c'est le moment où vous avez besoin d'être dans la parole plus que jamais. Et dire, il est écrit, et je me tiens sur la parole. Je me tiens sur la parole. Dieu se cherche un peuple dans la parole, frères et sœurs. Dieu se cherche un peuple qui est borné, borné d'une bonne façon, qui ne changera pas d'idée, qui ne reviendra jamais en arrière, qui n'arrivera jamais au point de dire, ben peut-être Dieu a permis ça. Regardez là, Ésaïe 54, tu seras affermi, affermi dans la justice, affermi, tu ne bougeras plus de ta place, tu seras affermi, bannis l'inquiétude, cesse de t'inquiéter, c'est ça que la Bible nous dit, cesse de t'inquiéter, car tu n'as rien à craindre. Le mot rien, en hébreu, ça veut dire rien. Tu n'as rien à craindre, parce que Dieu est avec vous. Hey, Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Tous les démons de l'enfer sont sous mes pieds. L'ennemi ne peut pas me toucher, la Bible me dit, ne peut pas vous nuire, dans Luc, ne peut pas me nuire. Pourquoi? Parce que je suis en autorité. Christ, on l'a vu pendant la Sainte-Seine, a déployé cette autorité. Ok, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, des mauvais coups contre vous, là, si on forme des attaques, cela ne viendra pas de moi. Avez-vous compris ce que Dieu vient de dire? Cela ne viendra pas de moi. ça ne viendra pas de Dieu. Dieu n'est pas contre vous. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Et je vais devoir arrêter. Parce qu'on a besoin d'aller manger des hot dogs. Mes frères et sœurs, j'ai invité l'équipe de la louange. Ce matin, c'est un message extrêmement simple. Extrêmement simple à comprendre. Extrêmement simple à comprendre. Mais ça prend une décision dans la vie. Ça prend une décision. Il faut vraiment se dire, 2013, c'est l'année où je vais briller pour mon Jésus. 2013, moi, j'ai pris la décision. Ce n'est pas juste un vécu qui va briller individuellement. C'est l'année là, où je vais être dans la parole comme jamais auparavant de toute ma sainte vie. C'est l'année où je vais vivre des transformations. Certains d'entre vous, ça ne fait pas nécessairement très longtemps que vous êtes un enfant de Dieu. Et là, vous pouvez faire des sauts, vous pouvez avancer rapidement. Et si vous êtes là et vous dites, ben moi, je suis un vieux chrétien, vous aussi, vous pouvez avancer très rapidement. Si vous dites, ouais, mais j'ai jamais même lu ma Bible, c'est le temps cette année de la lire au complet. C'est le temps, savez-vous, les enfants de Dieu, on devrait tous avoir lu la Bible au moins une fois et plusieurs fois. Savez-vous, ce n'est pas du légalisme que ce que je vous dis là. Ce n'est pas du légalisme, c'est la vérité. On doit connaître la parole de Dieu. On doit la connaître, mais si on la connaît et on se dit, ben, je suis obligé de la lire, je me donne. Ne voyez pas ça comme je suis obligé ou c'est une discipline. Voyez ça comme un privilège. Comprenez le privilège. Il y a un privilège que j'ai, là. Je découvre la vérité de Dieu. Je lis la parole. Je la dépose dans mon cœur et je ne bouge pas de ma place. Je ne bougerai pas. Je vais rester ferme. Je vais rester affermi dans la justice. Je vais rester là. Je vais croire la parole de Dieu. Je vais croire la parole de Dieu et elle va être dans ma bouche. Elle va être dans ma bouche et je vais changer l'atmosphère de ma vie en croyant ce que Dieu a dit. Oh, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est dans cette place ce matin pour changer les vies. L'Esprit de Dieu est dans cette place en ce moment pour vous libérer. Votre problème, c'est un petit problème comparativement à la provision de Dieu. Dieu a une provision pour vous. Dieu a la puissance de disponible pour vous. Ce problème est petit. Ce problème est minuscule, enfant de Dieu. Microscopique. C'est un petit problème pour notre grand Dieu. Il y a une provision pour vous. Une provision dans sa parole. Combien d'entre vous, ce matin, vous pourriez dire, aujourd'hui, je prends une décision. À partir d'aujourd'hui, je vais passer plus de temps dans sa parole. Est-ce que je peux voir en levant les mains? Les gens qui disent, moi, je passe plus de temps. À partir d'aujourd'hui, plus de temps dans sa parole. Gloire à Dieu. C'est bon, Dieu a vu vos mains. Et comprenez ceci, quand vous passerez plus de temps dans sa parole, relâchez votre foi pour une soif surnaturelle. Commencez à croire Dieu, que Dieu va vous donner une soif. Si vous dites, j'aimerais ça des outils pour m'aider à comprendre, allez vous acheter une Bible d'études. Des fois, on lit des textes, on lit l'Ancien Testament, puis on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez vous chercher une Bible d'études, c'est super important. Chaque enfant de Dieu devrait avoir une bonne Bible d'études. Il y a une Bible présentement qui se vend Esprit et vie. Esprit et vie. En général, c'est une très bonne Bible d'études. Mon épouse lit cette Bible, elle l'apprécie beaucoup. Ou, vous pouvez aller sur Internet gratuitement, vous lisez un chapitre par semaine. Un chapitre par semaine, mais c'est une étude approfondie. Avec moi, vous allez sur ma page, des textes, vous allez dans la Bible, commentez, Sphinx, puis là après, vous lisez chaque verset commenté. Avec, on va dans le grec, on va étudier un petit peu une application, comment le faire. Vous savez, on n'a pas de raison. C'est facile, c'est gratuit, c'est sur Internet. Puis si vous dites, j'ai pas l'Internet, mais j'aimerais ça suivre, vous faites donner votre nom à la table d'accueil, puis on va vous imprimer les feuilles sur Internet. On veut vous aider, frères et sœurs. On veut vous aider. Cette église doit être une église de la parole. On doit être une église de la parole, frères et sœurs. Puis j'espère que ce matin, tout ce qu'on a vu, c'est juste là pour vous encourager. Juste vous encourager. Cette année, je vais être dans la parole comme jamais auparavant. Puis comme je vais être dans sa parole, ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Et ce privilège va me faire accéder à d'autres niveaux. L'héritage, je vais le vivre pendant mon vivant. L'héritage, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas juste pour au ciel. Des fois, on chante des cantiques. surtout dans le monde Southern Gospel comme moi, c'est toujours in the sweet by and by, dans l'au-delà. Rendu au ciel un jour, on va vivre quelque chose. Et oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, mon héritage, c'est à moi, c'est pas à Satan. Et je vais vivre pleinement ce que Dieu veut pour moi. Oh Seigneur, je veux prier pour mes frères et mes sœurs dans cette place. Merci Seigneur Dieu pour le privilège qu'on a de lire ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce grand privilège qu'on a d'avoir part à notre héritage aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous sommes co-héritiers avec toi. Et Seigneur Dieu, nous sommes déterminés de vivre notre héritage. On est déterminés, Seigneur, on veut savourer notre héritage aujourd'hui. On ne veut pas perdre notre temps, Seigneur, mais on veut pleinement vivre cet héritage, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, je prie aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu déposes dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, que tu leur donnes une soif absolument surnaturel, qui puisse vouloir passer des heures dans ta parole, qui puisse dire, mais je me reconnais même plus. Seigneur Dieu, fais des miracles ce matin dans cette église. Donne-leur un grand désir, qui puisse dire, je veux plus de Jésus, je veux plus de sa parole. Oh Seigneur, merci pour un esprit de révélation dans cette place. Merci parce que tu viens illuminer les yeux de leur intelligence spirituelle. Merci parce qu'ils peuvent, ils peuvent saisir les vérités de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui travaille parmi nous. Merci parce que tu te révèles à nous dans ta parole. Merci pour les rémas qui viennent de toi. Lorsque les gens lisent leur Bible, il y a des versets qui leur sautent au visage. Des promesses qui viennent de toi pour leur vie. Merci pour les transformations dans cette église. Merci parce que tu continues à nous façonner par ta parole. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour les changements. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on progresse. Merci parce que notre témoignage comme église, c'est « Je suis béni et hautement favorisé de l'Éternel. » Hautement favorisé. Hautement favorisé. Oui, il y a des problèmes sur cette terre, mais Seigneur, tu as une provision pour nous. Et on prend cette provision par la foi. Par la foi, Seigneur Dieu, dans ta parole, je m'attache. Je m'attache à ta parole, Seigneur Dieu. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonne pas. Mais je garde ma foi dans ta parole. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Je déclare sur chaque tête le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Restez avec nous pour un repas ensemble. Soyez bénis. À tantôt.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.